La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Et si nos personnes âgées pouvaient continuer à voyager grâce à la réalité virtuelle, c'est la solution du jour Dora Nana et ça s'appelle Feel You.
Oui, partir en balade, voyager, tout ça sans bouger, en enfilant simplement un masque de réalité virtuelle. Vous l'avez à côté de vous, donc je vous laisse l'enfiler tranquillement. C'est ce que propose l'association Feel You aux personnes âgées dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, même chez nous, comme vous voyez. Que ça soit en France ou dans les calanques de Marseille, vous allez pouvoir découvrir, je vous laisse découvrir, Elisabeth, ou à l'autre bout du monde. Ça permet de se relaxer, de s'évader un peu du quotidien et d'oublier parfois, pour un temps, les soins douloureux. Bonjour Virginie Ferrière.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de l'association Feel You, donc on l'appelle, hein, c'est F-E-E-L et U en majuscule. Ils ressemblent à quoi ces voyages? On les voit tester, qu'est-ce que vous voyez?
Alors là, normalement, ils sont à la place du randonneur, ils randonnent tout au long des calanques, donc dans des sentiers un peu arpentés.
Avec une belle mer bleue méditerranée.
Et une mer qui donne envie de plonger, et effectivement, ils refont des voyages qu'ils ne peuvent plus faire souvent.
Et on voit à 360 degrés, c'est assez, moi je l'ai testé avant de rentrer, on peut regarder derrière soi, voir les promeneurs qui sont derrière nous, enfin on est vraiment complètement, c'est pour ça qu'on appelle ça immersif, on est en immersion totale.
Absolument, et le concept c'est que c'est nous qui produisons nos propres voyages, donc en fait on part avec une caméra là où ils ont envie d'aller. Donc il y a les Calanques parce que ça a été demandé, il y a le Mont-Saint-Michel parce que c'est des endroits qui nous ont été demandés également. Donc voilà, on fait les balades qu'ils ne peuvent plus faire.
Et simplement en enfilant ce casque. Donc c'est un masque en fait, qu'on pose sur le visage, qu'on le décrive, on le voit à la caméra, mais qu'on l'imagine sur europe1.fr. Et on le met, et là vous lancez grâce à une application, on sélectionne une vidéo, on peut aller où?
Alors il y a différentes destinations. Effectivement, quand vous dites simplement, la solution Feel You, c'est qu'on a développé la prise en main à distance du masque. Sinon, la personne devrait chercher avec une manette comment...
C'est-à-dire, vous avez développé la prise en main. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans un établissement pour personnes âgées.
Absolument.
Comment ça se passe?
Ce qui est important, c'est que la personne va mettre le masque, mais la personne qui peut être moi ou le soignant est à côté avec la tablette, que je vais vous sortir après. Et donc, ils vont pouvoir choisir ensemble le voyage. D'accord. Ça, c'est important parce que d'abord, on a plus de barrières technologiques, il n'y a plus besoin de sélectionner, ils ne savent pas le faire et on ne va pas leur apprendre. Par contre, même pour les dents, il n'y a plus qu'à sélectionner et on crée tout de suite du lien autour du voyage. Ce qui fait que le soin disparaît totalement s'il y a un soin derrière. Ou même le moment qu'ils passent ensemble, la discussion va être tout de suite orientée vers le voyage, ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils voudraient vivre ensuite. Et on recrée l'envie. C'est ce qui manque souvent quand on est en manque d'autonomie, qu'on ne peut plus faire. Ben on n'a plus envie finalement. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent à faire des voyages qu'ils avaient fait avant et ils nous proposent des choses, donc on les fait. Là, il y a un monsieur qui aimerait... il était pilote d'avion, donc on va faire de l'avion pour lui. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut recréer par rapport à leur vie d'avant.
C'est magnifique. C'est...
Et les utilisateurs, justement, vous rencontrez, parce que vous vous déplacez, il faut le dire, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, vous faites des ateliers avec eux, vous montrez le procédé. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça réduit quoi? L'anxiété, le stress, comme on a dit, ça fait travailler la mémoire aussi?
Oui, ça fait travailler la mémoire. C'était le premier challenge, c'était de travailler sur la mémoire, parce qu'on les faisait témoigner sur leur patrimoine. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça recréait du lien social entre eux. Ils avaient envie de participer à la prochaine séance, ils revenaient aux séances collectives. Et puis bien plus que ça, effectivement, chez des patients très douloureux, sur des soins très très longs, on a baissé de 25 minutes à 5 minutes le soin, sans prémédication, on enlevait la prémédication, la douleur.
Mais c'est pour quel type de soins?
C'était des soins, souvent des escarres, des soins assez longs, douloureux
pour
et pénibles pour la
alitées.
Personne.
Voilà. Souvent.
Donc là, le lien entre le soignant et la personne est difficile parce qu'à chaque fois qu'il la voit rentrer, c'est pour avoir mal. Et là, tout d'un coup, ils vont partir dans les calanques ou ailleurs.
Que dit notre coach, Laurent Chouin?
Je pense que ça ne s'adresse finalement pas qu'aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'à terme, l'idée, c'est que dans toute situation de détresse ou de stress, ça peut être intéressant. Je crois même que vous avez fait d'ailleurs, je ne sais plus, ça s'appelle la caravane de Paulette ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire... des fenêtres qui étaient remplacées par des écrans, et où là, les petits-enfants avec les
exactement.
Les
en fait, le POC, la preuve du concept a été faite sans masque de réalité virtuelle. On l'a testé d'abord dans une caravane immersive, et là, effectivement, c'était les plus jeunes qui questionnaient les anciens sur leur voyage. Donc, les jeunes savaient qu'il y aurait un masque de réalité virtuelle à la fin, mais on avait peur que les personnes âgées ne soient pas réceptives au masque. Et donc, on l'avait fait dans cette caravane. Donc, il n'y avait plus de fenêtres, ils étaient au milieu de leur village avec leur témoignage. Donc l'ambition était vraiment de relier les jeunes avec les plus anciens autour de leur histoire.
Jusqu'à présent, combien de personnes ont pu bénéficier de votre casque de réalité virtuelle ?
Alors là, on le teste depuis 2018. Donc on a plus de 700 personnes qui ont pu le tester.
Essentiellement dans des EHPAD ?
Eh bien, pas que. Ah, on a travaillé également avec Unicité, par exemple, qui nous permettait d'aller à domicile chez des gens qui ne voulaient plus sortir. Oui. Et là, pareil, revoir la ville, ils ont eu envie de retourner se balader dans Montpellier, dans Nîmes, etc.
Combien ça coûte, dernier point ?
Et oui, alors pour l'instant, on a deux formules. Soit effectivement, on anime en établissement. Et donc là, c'est des animations qui coûtent autour de 600 euros. Ou alors, on propose des formules d'abonnement qui sont à 99 euros pour une année, en fait.
Et comment vous faites connaître ? Parce que vous allez vous-même, vous allez prospecter au sein d'établissements, vous êtes sur les réseaux sociaux.
Ouais, on a eu pour l'instant la chance de travailler qu'en partenariat. En fait, c'est un projet de co-construction. Donc au départ, c'est des premiers partenariats qui nous ont permis de rentrer dans les premiers établissements de Languedoc Mutualité. Et puis au fur et à mesure, on a toujours fait travailler la presse, on a toujours aimé avoir ce contact-là. Donc effectivement, on s'est fait connaître comme ça. Et puis d'autres établissements nous ont fait confiance. Et puis voilà, on travaille un peu pour l'instant en partenariat sans faire trop de prospection commerciale.
Laurent, dernier
mot ? Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça repose pour l'instant beaucoup sur les paysages, mais vous allez vous diversifier. Et il y a une idée qu'on évoquait ensemble juste avant, c'était que pensez aux vieux golfeurs, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a un endroit reposant, calme et tout, c'est les golfs, c'est intéressant. C'est
vous m'avez donné une idée qui est extrêmement intéressante.
Ça s'appelle Feel You. Merci Virginie Ferrière. Vous êtes la fondatrice de Feel You pour permettre aux patients, notamment aux personnes âgées, de faire des voyages immersifs grâce à vos casques de réalité virtuelle.
Merci beaucoup.
Il est midi 57. Europe 1. Restez avec nous dans La France Bouge. Et si les objets les plus lourds pouvaient devenir légers comme une plume ? C'est la révolution des exosquelettes dans les métiers du bâtiment. Et c'est à suivre dans un instant dans La France Bouge. Ce sera juste après le journal de 13h.
Bien, midi 14h, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France Bouge, seconde partie. On parle pénibilité au travail. La pénibilité est au cœur de la réforme des retraites. Et si les objets les plus lourds pouvaient devenir légers comme une plume ? C'est le dossier du jour, c'est la révolution des exosquelettes dans les métiers, notamment du bâtiment. Toute une série d'innovations, d'initiatives sont lancées sur ce sujet. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Laurent Chouin, DRH du groupe Mazar, et Dora Nana, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Ils travaillent dans le bâtiment, ils portent des charges lourdes, ils peuvent rester longtemps dans les mêmes positions, les bras en l'air. Bonjour Pierre Davezac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu du micro, comme ça on va bien vous entendre. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de l'entreprise Exos. Exos, ce sont, comme son nom l'indique, un peu des exosquelettes, des membres supérieurs pour porter, pour déposer des charges lourdes. C'est un peu ça. Comment on l'utilise ?
Oui, c'est ça. Donc, alors, ça vient de ce que connaissent en fait beaucoup de gens, sans forcément savoir le nommer, de ce qu'on appelle le Steadicam, les stabilisateurs de caméra, qui existent depuis plus d'un demi-siècle au cinéma.
Sur
maintenant, vous les voyez
dans les
télévisions, exactement, au bord des terrains de foot.
C'est cette caméra qui est fixe sur un bras et qui se promène, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Enfin, la caméra est stabilisée par un moyen mécanique autour d'un ensemble de roulements. Et vous avez un bras qui permet de porter cette charge qui peut aller très très loin, qui peut être de l'ordre de 50 kilos, et de la porter de manière extrêmement confortable. Vous pouvez jouer avec 50 kilos comme si ça représentait dans vos mains environ 400 grammes.
Incroyable.
Et vous avez donc cette charge qui est ramenée sur le corps humain via un harnais avec une répartition qui a fait l'objet de nombreuses études depuis un demi-siècle. Si je vous donne le terme exact, c'est une répartition qu'on appelle scapulo-iliaque, donc un petit peu tout en haut de l'omoplate et beaucoup sur le bassin. Et avec cette répartition d'efforts, vous rendez le port d'une charge quasiment transparente sur le corps humain. Vous ne la sentez pas du tout.
Alors, par exemple, sur un métier concret, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Comment ça peut être utilisé par un travailleur ?
Alors, on a commencé en 2013 par un poste où il s'agissait de poncer le plafond. Je pense que beaucoup de gens ont déjà fait ça, même à la maison. Donc vous avez mal au cervical, vous avez mal...
La position
évidemment,
est trop longue.
C'est ça, c'est une grosse contrainte posturale, effectivement, que peut très très bien venir soulager un exosquelette qui vient vous soulager au niveau des triceps, au niveau du coude, si vous voulez, sous le coude.
Donc on le porte, il est sur nous, l'exosquelette, on l'enfile comme un vêtement.
Exactement, vous avez donc un harnais, vous le portez sur vous. et vous venez vous accouder dans des exobras qui sont là à disposition et qui peuvent se rétracter quand vous n'en avez plus besoin.
Exobras, c'est-à-dire c'est le troisième bras.
C'est ça, enfin c'est le bras mécanique.
Et notre vrai bras, il se repose dessus, c'est-à-dire qu'on est, on est quand même actif ou pas? Ou on est presque
alors
inerte?
Oui, vous pilotez l'exo, donc vous faites vos gestes habituels.
Mais c'est vous qui le pilotez.
C'est l'opérateur qui
et
pilote.
C'est, et c'est le bras qui porte, le faux
et
bras.
Et c'est le bras qui porte quand on a besoin qu'il porte, qui vous renforce en fait, musculo-squelettiquement parlant.
Vous parliez des plateaux de cinéma, parce que votre idée, elle est partie de là, tout est parti des plateaux de cinéma.
Alors depuis 17 ans, oui, ma société est le seul fabricant français de stabilisateurs de caméras. Donc notre métier à l'initial, c'était de porter des caméras, cinéma, télé.
Et depuis, vous avez développé, vous avez créé ces exosquelettes. Et là, vous avez même plusieurs gammes destinées à des métiers différents.
Exactement. En 2013, donc c'est parti de là, des mêmes matériels. Donc on a remplacé la caméra par un perfo et on s'est dit, on va s'ouvrir
un... c'est-à-dire
on appelle ça des électroportatifs. Donc c'est tout ce que vous pouvez trouver sur un chantier pour faire des trous, pour meuler.
Donc pour les électriciens, pour les peintres notamment.
Par exemple. Ouais.
Et là, je crois qu'on peut prendre des charges de 25 kilos et là aussi, c'est ressenti comme 400 grammes maximum.
Voilà, quelques centaines de grammes. Oui, effectivement. Ouais.
C'est incroyable, hein, Laurent.
Oui, c'est intéressant parce que, Elisabeth, vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure pour être travailleur, mais aussi pour être travailleuse. C'est-à-dire que l'avantage,
c'est que ça neutralise.
Oui, c'est ça, c'était générique. Mais ce que je veux noter, c'est que ça permet aussi de transformer certains métiers qui étaient par nature liés à la force et qui, là, en réalité, maintenant, peuvent être liés à la précision, par exemple.
Ça, en tant que DRH, justement, Laurent.
Oui, alors, chez Mazars, la charge de physique est assez limitée.
Mais
on appuie sur le bouton ascenseur, quand même.
C'est pas mal.
On reste en position devant des ordinateurs toute la journée. Enfin, il y a d'autres logiques de ce qu'on pourrait appeler l'humain augmenté, finalement. C'est ça que vous faites, en réalité.
Oui, mais il y a en fait de vrais enjeux. On parlait d'une féminisation, elle existe, c'est une réalité, mais on peut aussi tout à fait parler de ce qui est scientifiquement établi depuis quelques temps, qui est une perte de masse musculaire chez le sujet masculin depuis une génération.
Lié à ces métiers
Non, lié à un changement sociétal. L'homme qui n'est plus l'homme massif de 100 kilos...
pas tous,
il peut être
Pas trop long. Dora, on parle de pénibilité, c'est le thème de notre dossier du jour. On parle de quoi précisément quand on évoque la pénibilité?
Oui, parce que c'est précis, hein. Selon le code du travail, on parle de la pénibilité du travail lorsqu'une personne est soumise ou a été soumise à un risque dans le cadre de l'exercice de son activité déjà. Et la pénibilité, elle se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel, risques qui sont rythme de travail de nuit par exemple, les 3-8, des postures pénibles, on en parlait, des températures extrêmes, travailler dans le bruit. Et tous ces facteurs doivent être susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés.
Donc vous avez parlé tout à l'heure de votre exosquelette dédié au métier du BTP pour les électriciens, les peintres. Vous avez sorti plusieurs gammes parce que vous vous êtes dit à chaque métier, il faudrait trouver l'exosquelette qui peut s'adapter à la posture.
Effectivement.
Et à la tâche.
Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, un exosquelette qui sache tout faire pour tout le monde, dans toutes les boîtes, dans le monde entier, ça n'existe pas. On est au contraire sur des exos très très monotâches, très très ciblés pour servir telle fonctionnalité et pas telle autre.
Sinon, vous iriez au robot de toute façon. C'est-à-dire que si ça pouvait aller sur plusieurs personnes, l'humain ne serait plus nécessaire dans le process.
Oui, c'est possible. Ouais. Mais en tout cas, oui, le modèle, c'est d'avoir des modules d'exosquelettes, donc des omoplates, des arrière-bras, des avant-bras, tout un tas de systèmes pour le faire fonctionner et de faire, à la faveur d'un audit qu'on réalise chez les clients, la recette de cuisine du meilleur exosquelette possible pour servir tel ou tel cas d'usage.
J'imagine qu'avec l'explosion des livraisons à domicile et des colis, vous avez aussi mis en place une autre gamme d'exosquelettes dédiée aux poignets pour les livreurs ?
Alors ça, c'est un autre gros enjeu. On essaie de balayer un peu rapidement tout ça, mais c'est une vraie question.
C'est une vraie question, parce que la livraison des colis, il y a des colis qui sont plus lourds que d'autres, il y a des tâches répétitives aussi.
Oui. Mais vous avez chez les équipementiers, effectivement, cette question de savoir si on ne positionne pas sur toutes les charges une poignée qui permette de les porter directement. Comme
et
on
vous,
porte
c'est
une
ce
valise.
Que vous avez fait, je crois, avec Picker, c'est ça, cette
deuxième gamme ? Le Picker, c'est l'un des modèles de la gamme qui, effectivement, s'adresse expressément aux logisticiens, donc des gens qui, toute l'année, à longueur de journée, de semaine, de mois, ont à porter et déposer des colis pour ce qu'on appelle palettiser, pour aller fabriquer des palettes ou aller... aller déposer des charges comme ça, les prendre, les déposer. C'est ce qui est de...
Votre compétence, Laurent, c'est de faire le design aussi. Je prends un exemple. Il y a, par exemple, un exemple que tout le monde connaît, c'est les caissières en supermarché. Mm-hmm. Sur une heure, elles peuvent porter plus d'une tonne, ouais, en réalité. Mais c'est une tonne qui est répartie dans plein de choses. Donc vous, si vous travaillez par exemple avec elles, vous allez observer, regarder comment vous construisez vos...
Exactement.
Dites, finalement, comment ils font,
voilà,
l'audit.
Voilà, c'est ça.
Comment ça commence par ça. Ça commence par effectivement aller voir, travailler les gens, réelle, repérer les hauteurs de prise, des poses de charge, les gestes, les postures, l'environnement. De parler avec eux, d'échanger avec eux, ce qui est très très riche aussi d'enseignement, lorsque vous parlez vraiment aux opérateurs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de pénibilité, il y a effectivement cette pénibilité physique telle qu'elle est décrite dans le Code du travail, mais vous avez ce qui apparaît depuis quelques années, depuis peut-être 2-3 ans, la notion de pénibilité en fait psychologique, mentale, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est... voilà, placez-vous 2 secondes dans la vie de gens
de
qui, toute la journée, toute la semaine, à longueur de mois, d'années, portent et déposent des charges. Voilà, il y a cette notion aussi de pénibilité.
Des troubles musculo-squelettiques aux risques psychosociaux.
Exactement, exactement, oui. Et on parlait de robotisation tout à l'heure. C'est pas tout à fait idiot, bien qu'étant fabricant d'exosquelettes, donc pour venir soulager les opérateurs, c'est pas du tout idiot de se pencher très sérieusement à la question de la robotisation. Oui.
On reste ensemble et on continue à parler de pénibilité au travail et des solutions pour améliorer la santé et le quotidien des salariés.
Il est 13h18.
Europe 1.
Nous parlions des exosquelettes, restez avec nous. Il existe aussi des robots d'assistance dissimulés dans des sacs à dos et qui changent la vie dans beaucoup d'autres professions, peut-être la vôtre. A tout de suite dans La France Bouge.
Dans La France Bouge cet après-midi, on parle de solutions d'innovation pour soulager la pénibilité au travail. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous, c'est possible, au 3921. On vous mettra à l'antenne, on vous donnera la parole. Écrivez-nous également, posez vos questions à nos invités, par exemple via Twitter, Elisabeth, avec le hashtag Europe 1.
Avec le hashtag Europe 1. Bonjour Serge Grigorovic.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de RB3D.
Ah oui.
Mais oui, parce que tout a démarré avec ce film pour vous que vous aviez vu en 1977, je crois.
Oui, j'avais 10 ans.
Et vous avez appelé votre robot RB3D, un petit clin d'œil à R2D2.
Un petit clin d'œil à R2D2 et réellement pour moi ça a été un flash en me disant « Ah ouais, c'est ça que je veux faire ». Et après j'ai orienté mes études.
Toute votre carrière, tout a été guidé par ce petit robot. Vous fabriquez depuis 2001 des robots pour aider les travailleurs qui sont confrontés à des tâches manuelles répétitives.
Oui. Alors on a commencé par un travailleur qui n'est pas un plâtrier, mais qui est un kinésithérapeute. Mmh. Et en fait, qui avait mis au point une technique de palpé-roulé qui permettait le soin et d'enlever en fait des douleurs au niveau de ses patients. Et en faisant ça, en fait, il s'était détruit les cartilages.
Oui, parce que le palpé-roulé, on utilise énormément le pouce et l'index.
Et en plus, dans sa méthode, il fallait appliquer des efforts assez importants et de manière continue.
Donc il s'est un peu massacré les pouces, c'est
et
ça.
Par contre, sa méthode est vraiment top. Mmh. Donc, ses collègues lui disent, mais comment on peut faire pour avoir les mêmes résultats que toi sur différents types de pathologies?
Et là, vous intervenez, vous dites, je vais créer un robot pour aider ce kinésithérapeute.
Alors, c'est un tout petit système. En fait, un genre de... Ça pèse 1,5 kg, ça se met sur le corps de la personne. Il y a 2 doigts et c'est électrifié. Et ça vient, en fait, pincer.
Il y a encore intervention humaine ou pas?
Et bien sûr. Et le kiné, en fait,
vous les faites cohabiter. Vous faites cohabiter l'homme et le robot. Puis, il y a eu l'arrivée des exosquelettes. Là aussi, vous vous êtes penché sur la question.
Oui, alors quelques années plus tard, 2010, on a travaillé avec la Direction Générale de l'Armement à l'émergence en fait d'un projet immense, le projet Hercule,
voilà,
pour faire en fait un exosquelette, mais cette fois-ci avec pour des aider, assistances électriques
pour aider porter des charges, les charges lourdes que portent les militaires en opération, par exemple.
Voilà, typiquement, on a commencé par l'idée du sac à dos qui pèse de 40 à 50 kilos suivant les cas. Comment aider en fait cet opérateur sur un théâtre d'opération pour porter sans effort cette charge.
Alors comment vous l'avez aidé?
on l'a aidé en fait en faisant un système. Alors, on est un petit peu plus loin que mon collègue en termes de vêtements, mais c'est quand même un système qui est parallèle au corps, des jambes électrifiées. Avec
c'est
des...
une forme de combinaison qui a des muscles électriques, c'est ça ?
Oui, c'est ça, avec des moteurs électriques à la place des muscles. Et puis,
on peut le voir là en direct sur
Oui, vous insérez dedans. Alors ça, c'est pour le dos, mais c'était une machine un peu plus complexe, un petit peu plus lourde, qui permettait en fait de faire ce port de charge.
Donc on enfile une sorte de combinaison avec des muscles électriques qui vont multiplier, ces muscles électriques qui vont multiplier nos capacités humaines.
Oui, on est en fait le système détecte votre intention, en fait la force que vous mettez dans une action et va l'amplifier.
C'est comme le vélo électrique.
Bon, en fait, oui, c'est le même système.
C'était le premier exosquelette, le vélo électrique.
On a coutume de dire que la bicyclette c'est l'exosquelette le plus abouti.
Dora.
Et là, chez les militaires, du coup, le poids du sac à dos, il est réparti entre l'exosquelette et l'humain ou pas du tout? En fait, il est complètement réparti sur ces espèces de jambes électriques.
Oui, enfin, sur le projet Hercule, le premier projet, en fait, le poids du sac à dos redescendait au sol directement par une structure rigide électrifiée. Donc, il y avait zéro charge sur l'utilisateur.
Et le sac à dos est relié à des jambes d'êtres humains, c'est
oui,
ça ?
Oui, bien sûr.
Et ce sont les jambes électriques qui reçoivent tout le poids du sac à dos. Laurent, notre coach.
Je vois bien les applications, mais c'est intéressant. Vous avez dit il y a eu un départ, une sorte de prototypage dans l'environnement militaire. C'est souvent le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, les applications, là, elles sont civiles. Vous, votre intention initiale, c'était spécifiquement de servir des applications civiles ou vous vous êtes dit, en fait, non, peu importe, et c'est le progrès technologique qui m'importe.
En fait, ce projet avec la Direction Générale de l'Armement, c'est un projet qu'on appelle dual, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des applications militaires et civiles. Le gros intérêt, c'est qu'effectivement, il y a des moyens dans le monde militaire qui permettent de faire émerger des technologies qui sont assez difficilement finançables dans le monde
civil. Donc votre modèle économique, en réalité, il est plus sur ce versant-là, c'est-à-dire sur, on va dire, des partenariats public-privé, des choses comme ça, que de directement servir des clients individuels.
Alors, à l'initial, en fait, ça a permis de lancer la recherche et développement dans ce domaine, mais aujourd'hui, on a basculé sur un monde civil de réalisation d'exosquelettes et de robots collaboratifs pour le monde civil.
Ça a été long à mettre en place.
En fait, il a fallu agglomérer pas mal de technologies, de la mécanique, de l'électronique, du software, de la sécurité, pour réussir à faire en fait des systèmes qui sont le plus transparents possible à l'utilisateur.
Et le moins contraignant aussi.
Voilà, c'est ce qui permet en fait l'acceptation de ce type de machine.
Aujourd'hui, le système pèse 8 kilos et il va être en test dans plusieurs régiments.
Oui, on a des opérations de test, notamment dans un régiment du train parachutiste, c'est-à-dire tous ceux qui amènent en fait les munitions, les vivres sur les théâtres d'opération en opération extérieure.
Donc très concret, immédiatement, ça peut tout de suite être utilisé.
Voilà, ça s'enfile en 15 secondes. C'est actif, ça protège les lombaires de l'utilisateur dans toutes les opérations. Et Dieu sait que, alors là, dans le monde civil ou le monde militaire, malheureusement, on ne peut pas toujours avoir un dos bien droit pour faire une opération de portée.
Dora.
Oui, non, moi, je voulais vous demander, vous avez aussi développé des robots aussi qui permettent, en effet, un peu comme ce qu'on disait, qui complètent un peu notre première invitée pour permettre de porter des choses très lourdes, des gros outils dans le BTP, parce que ça aussi, dans le BTP aussi,
routes,
il y a de la manœuvre. Et puis pour les routes également.
Alors, pour le monde en fait de l'industrie, on a mis au point un petit peu sur le même modèle une technologie qui suit l'intention de l'utilisateur. Alors là, pour le coup, c'est une barre. Et avec cette barre, on va pouvoir transporter des verres très lourds jusqu'à 350 kg, mais en n'ayant pas plus d'effort en fait, et d'inertie et de contre-effet que quelque chose de 1 kg dans la main.
Toujours cette réduction du poids.
Oui, voilà, c'est un élément. Et pour la route, c'est aussi un exosquelette. En fait, c'est le premier enfant d'Hercule, on va dire.
C'est pour le bitume.
Voilà, qui sert à étaler le bitume. Alors, l'opération, là, c'est une opération qui est faite manuellement pour réaliser, en fait, l'aplanissement du bitume avant le passage du cylindreur. Et il y a des postes où il y a des gens qui font ça, qui étalent 30 tonnes par jour.
Et souvent la nuit aussi. Voilà. On reste ensemble, on continue à parler pénibilité au travail sur Europe 1.
Il est 13h28. Europe 1.
Quelle est la réalité de l'effort que vous faites au travail? Figurez-vous que des bornes existent capables d'évaluer en temps réel sur un écran l'effort d'un travailleur. C'est ça aussi, la France qui bouge.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. Et dans La France bouge, cet après-midi, on s'intéresse à la pénibilité au travail et surtout aux innovations pour la soulager, comme la robotique par exemple. Et vous, pour accomplir quelle tâche aimeriez-vous avoir l'aide d'un robot? Que pensez-vous des solutions de nos invités? Dites-le nous via Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921. Elisabeth.
Oui, quand un travail requiert des tâches répétitives très rapidement, les gestes et les postures peuvent devenir inconfortables et ça peut aussi provoquer des maladies professionnelles. Ainsi, pour aider les entreprises à corriger les postes de travail, à limiter les maladies, un entrepreneur a mis au point des bornes qui analysent en temps réel les efforts du travailleur. Bonjour Cyril Danet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de AIO, AIO qui commercialise votre solution qui s'appelle NUMI, N-U-M-2-I. Vous avez mis au point, grâce à l'intelligence artificielle, cette solution capable de mesurer en temps réel les efforts et les contraintes physiques des postes de travail. C'est un peu ça ?
C'est tout à fait ça.
Comment ça marche ?
On travaille donc depuis 10 ans dans l'industrie automobile et on travaille à améliorer l'appréhension de pièces pour les opérateurs à l'aide d'automates mécaniques. Et en 2013, on s'est posé la question comment, à l'heure du big data et de l'IA, on pouvait mieux comprendre cette problématique de pénibilité. Et on a commencé une expérimentation avec un laboratoire français qui est INRIA autour d'une mesure indirecte, si vous voulez, non intrusive pour l'opérateur, de la stratégie de travail, c'est-à-dire d'une observation.
Alors, comment il s'y prend, quels sont ses
exactement,
gestes.
Exactement, à partir de combien de temps il commence à fatiguer. L'objectif était d'aller au-delà de l'état de l'art, qui était plutôt un état de l'art, on en parlait tout à l'heure, plutôt une observation statique sur une période relativement courte, de 10-20 minutes. On essayait de comprendre, par exemple, on parlait de la caissière, son travail. Donc, on a fait le choix de développer des bornes qui sont totalement autonomes et qui sont interconnectées. Je vous expliquerai pourquoi après, si vous le souhaitez. De façon à mesurer dans la longueur, dans la durée, toute la journée, le travail de la personne pour comprendre sa stratégie de travail. Et puis, bien sûr, on en a déduit une nouvelle échelle de mesure de pénibilité.
Donc vous mesurez en temps réel les efforts. Comment ça marche ces bornes? Elles sont reliées à un smartphone? Elles sont reliées à quoi? Avec un écran? C'est quoi? Comment ça marche?
Vous y êtes presque. Donc les bornes mesurent à peu près 20 cm. Elles sont autonomes, elles sont sous batterie. On va les positionner dans l'environnement de travail de la personne. Alors pourquoi plusieurs bornes? Parce que quelquefois la personne peut être cachée par
Une hôtesse de caisse. Vous allez lui placer les bornes autour.
Exactement. Pour une hôtesse de caisse, c'est plus facile. Elle reste principalement à son poste de travail, donc une seule borne pourrait suffire.
Elle peut avoir des positions où elle se lève, elle s'assoit.
On n'a besoin qu'une seule borne dans ces cas-là, si vous voulez. On les allume. Il faut 5-10 secondes pour que les bornes s'allument. Et puis, on tend automatiquement sur une tablette. On va pouvoir observer, si vous voulez, l'ensemble de ces mouvements et de ces efforts en temps réel.
L'environnement aussi dans lequel elle évolue.
On peut effectivement parler tout à l'heure du bruit, on peut mesurer une température qui a une influence, mais relativement limitée, uniquement dans les températures trop chaudes ou trop froides. Et on va pouvoir faire une mesure continue du travail de la personne.
Donc cette borne, ça prend la forme d'un petit robot qu'on pose à côté de cette personne, pas intrusif, et le travailleur finit par l'oublier.
C'est l'objectif aussi, parce que la personne observée, souvent, on va changer ses gestes. Là, on va pouvoir avoir une durée de travail qui est importante et qu'on va pouvoir archiver, bien sûr, avec l'accord de la personne. Et puis, on va comparer le travail des gens. On va pouvoir mieux comprendre exactement les gestes qui sont problématiques dans la longueur.
Mais vous allez en faire quoi? Après, vous allez corriger? On fait quoi des résultats?
On peut les observer et pouvoir comparer le travail de deux personnes. Si vous voulez, entre un manager et par exemple deux caissières, vous prenez deux caissières.
Mais là, on sait qu'entre un manager et une caissière, ce ne sera pas la même chose.
Non, mais l'objectif est d'avoir une discussion, si vous voulez, autour de cette problématique de pénibilité, grâce à cette observation. Toutes ces données-là sont ensuite renvoyées dans un cloud où on propose donc aux entreprises deux usages. Le premier, c'est un suivi individuel, si vous voulez, de la pénibilité et du travail de la personne dans sa vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une personne travaillant à un poste de travail, où on a sollicité par exemple son épaule droite, où elle a un risque de tendinite, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule, on va pouvoir la préserver parce qu'on sera alerté, si vous voulez, avec le software qu'on a créé, le logiciel qu'on a créé, de cette problématique-là. Et on va pouvoir la déplacer sur un autre poste de travail, par exemple dans une usine.
Laurent Choin.
Cyril, il y a du diabolique et du merveilleux. C'était ça, sans la question d'Elisabeth. C'est-à-dire que le merveilleux, c'est qu'on sait tous qu'il y a une différence entre ce qu'on demande et ce que ça demande. Entre la description d'un job et puis en fait le vrai boulot qu'on fait. Donc là, vous réconciliez ça finalement, c'est génial. Donc vous permettez aux gens de se réapproprier leur travail. Dans le même temps, on voit bien Big Brother. C'est-à-dire que là, vous allez forcément avoir immédiatement une réaction de représentants de personnel, etc., qui vont dire, mais attendez, vous faites ça en réalité aussi parce que vous allez contrôler. Mais voilà. Donc il y a une question, comment vous passez au-dessus de cet argument-là?
Pour l'instant, on n'a pas eu de problème dans l'observation et dans l'échange avec les collaborateurs. L'objectif est que le sujet de pénibilité soit un sujet ouvert entre les managers, l'entreprise et les salariés. D'accord ? Donc, partager une échelle de mesure objective est important. Donc, c'est le choix que nous avons fait au
là
départ.
Là, pour l'instant, vous dites qu'il y a un bon accueil. Vous êtes en test, je crois, dans deux entreprises.
C'est tout à fait ça. Donc, on a commencé à travailler en 2013. La difficulté, c'est que nous sommes sur des terrains plutôt industriels par rapport à notre histoire.
Quel type de tâches ? Quel type de métier ?
Des tâches de montage sur une ligne automobile, par exemple, ou sur des lignes d'assemblage de voilures d'avion, etc.
Du travail répétitif.
Plutôt du travail répétitif, avec des cycles qui peuvent être de 60 secondes ou allant jusqu'à 15 minutes. Donc, on va pouvoir, justement... donc, l'objectif des bornes, c'est pouvoir traiter toute cette data en temps réel et puis la filtrer, parce que, bien sûr, dans un environnement industriel, on va dire qu'il y a énormément de bruit qui perturbe la mesure.
Ça va intéresser énormément d'entreprises. Vous avez déjà déposé un brevet, j'imagine ?
Alors, on a un brevet mondial, parce que grâce à ça, donc on a consolidé, si vous voulez, une base de données très importante. On est la première base de données sur le travail humain. Et on parlait tout à l'heure de robotique. On connaît très mal le travail de l'homme. Et cette base de données va certainement faire progresser le travail de la robotique, parce qu'on va pouvoir plutôt soulager les personnes sur les tâches qui sont effectivement plus précises et... plus répétable.
Il y a tout un tas de questions. On va continuer à parler pénibilité dans La France Bouge.
Il est 13h38.
Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Votre travail est-il fatigant, est-il pénible? Prenez-vous en compte la pénibilité de vos salariés si vous êtes patron? Écrivez-nous aussi sur Twitter. À tout de suite. Europe 1. Dans La France Bouge cet après-midi, on parle de la pénibilité au travail et des solutions pour la soulager. Et on en parle, Elisabeth, avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Laurent Choin, le DRH du groupe Mazars, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1, avec nos invités entrepreneurs, avec Pierre Davézac, le fondateur et le dirigeant de l'entreprise Exos, qui fabrique des exosquelettes des membres supérieurs, avec Serge Grigorovitch, le fondateur de RB3D, qui développe des robots d'assistance aux efforts pour les applications de portes de charge lourde et de travail, ainsi qu'avec Cyril Danet, le président de AIO, qui commercialise Numi, la première base de données sur le travail humain. On l'a vu depuis le début de ce dossier, petit à petit, on a l'impression que les mentalités sont tout de même en train de changer autour de cette notion de pénibilité. Mais Serge Grigorovitch, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il faut aussi prendre en compte l'acceptation de l'être humain, du travailleur là-dedans. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place.
Alors tout à l'heure, on parlait de l'INRS. L'INRS qui est en train de quantifier 6 paramètres qui font l'acceptation de ce type de machine qui se porte en pratique. Et au démarrage, nous, en tant qu'ingénieurs, on imagine tout de suite que qu'est-ce qui fait l'acceptation? C'est ce qu'on va dire, c'est on peut l'utiliser facilement, puis il y a des performances. Et en fait, ils rajoutent énormément de dimensions, une dimension d'acceptation sociale, une dimension d'amélioration de sa perception au travail, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est sur un sujet qui dépasse bien, dans les grandes largeurs, la problématique simplement de « je porte une charge ».
C'est mal vécu ? C'est mal vécu par certains ?
Oui. Il y a une partie, nous par exemple, avec notre exosquelette là, pour étaler le bitume, oui, il y a un pourcentage de gens qui, quelque part, sont réticents et il ne faut pas forcer les gens.
La résistance au changement, Laurent, c'est ça.
C'est classique et il faut impérativement en tenir compte. C'est pour ça que ce que disait Pierre avec la nécessité d'un audit, c'est fondamental. Mais il y a un autre élément.
L'état d'esprit général et les besoins. L'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique, c'est avec eux que vous travaillez pour pouvoir identifier les besoins.
Oui, il faut savoir une chose, c'est que en fait, la France est en pointe dans ce domaine. Elle a le premier groupe qui s'est constitué au niveau de l'INRS pour faire toutes les recherches actives dans le domaine, ce qui fait en fait aujourd'hui de la France la deuxième nation dans le domaine des exosquelettes, juste derrière les États-Unis. En utilisant justement tout cet enrichissement.
Et d'une façon générale, puisqu'on s'appelle la France bouge, il faut savoir que depuis toujours, la France est un grand leader dans ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire les lois du travail. Et donc, Maurice de Montmolin, Casamian, Hubot, tout ça, c'est des vedettes françaises dans le domaine.
Des précurseurs
dans le
domaine.
Connues.
Dora, depuis quand s'intéresse-t-on à la pénibilité? Ça remonte, hein, comme dit
Ah oui,
Laurent.
Ça remonte. Hein, ça remonte à Louis XIV. En 1673, il parlait déjà de la pénibilité des marins. Après Napoléon III, en 1853, qui a créé, lui, le régime de pension par répartition au profit de la fonction publique, ce qui a permis de prendre une retraite à 60 et à 55 ans pour les travaux pénibles. Et la création, alors là, c'est tout récent, du compte de pénibilité. On est en 2014, il a changé plusieurs fois de nom, de C3P à C2P, tout ça c'est très codifié et complexe, mais aujourd'hui il est regroupé dans le compte personnel d'activité. Alors à chaque fois, on voit bien la pénibilité s'invite à chaque réforme de retraite à noter que la pénibilité psychologique n'est absolument pas prise en compte, alors que depuis plusieurs années, les grandes institutions, l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau international du travail soulignent que le stress est devenu le premier risque pour la santé des travailleurs.
Laurent ?
Oui, c'est intéressant parce que moi, je suis un exemple. Chez Mazars, on n'a pas de charge physique, comme on le disait tout à l'heure. Mais on sait que l'évolution du travail, c'est plutôt vers ce qu'on appelle les travailleurs du savoir, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec leur tête plutôt qu'avec leur corps. Et on sait que le XXe siècle, c'était beaucoup la productivité manuelle, en fait. Donc, vous, quelque part, vous êtes aussi sur une partie du travail qui se restreint en partie. Donc, est-ce que vous travaillez aussi d'une certaine manière demain avec des populations beaucoup plus, qui travaillent plus avec leur cerveau qu'avec leur corps ?
Alors,
Serge Grigorovitch.
Je suis à moitié d'accord, en fait, avec, avec votre propos, parce que, justement, on assiste des gens qu'on utilise pour leur intelligence.
Ouais.
Et même si c'est des gens qui portent des charges ou qui étalent de la matière, en fait, on les prend parce que...
Et c'est pour ça qu'ils sont remplacés par des robots, finalement.
Et c'est pour ça qu'on ne met pas de robots à la place. Oui. Donc, en fait,
c'est complémentaire.
Oui, on est en train de travailler sur une partie de travail qui n'est pas aujourd'hui réductible à une robotisation.
Oui, oui parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Combien elles coûtent vos solutions et les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y a une envie de passer à vos solutions?
Alors, je vais prendre la parole.
Pierre Davézac. D'abord, combien ça coûte?
Alors, un exosquelette entre 5 et 8 000 en fonction de la configuration du nombre de fonctionnalités qu'on ajoute sur l'exo. La deuxième partie de votre question.
Et est-ce que vous avez le sentiment, vous le constatez sur le terrain, que les entreprises sont prêtes et investissent dans ces solutions?
Alors ça a été long. Nous on est sur le marché depuis 2013. Serge peut-être encore un peu depuis plus longtemps, quoique peut-être plutôt militaire que civil. Mais néanmoins, on sent depuis, je dirais, la fin d'année dernière, fin 2019, et de plus
mois.
En plus, il y a une accélération.
Vers cette prise en compte
qu'on appelle, c'est de l'anglais top-down, c'est-à-dire les directions qui prennent vraiment conscience de ce que pourrait apporter un exosquelette au monde du travail et veulent absolument que ça rentre dans les usines à toute force. Donc il y a un véritable changement.
Il se passe quelque chose.
Du point de vue entreprise en plus, il y avait un jour le patron d'Harvard qui avait dit « Si vous pensez que l'éducation c'est cher, essayez l'ignorance ». Ben là, de la même manière, en fait, la logique d'investissement qu'on peut avoir quand on est DRH, c'est toujours de se dire mesurons le coût que représente derrière l'accident de travail, la pénibilité, etc. Et c'est vrai qu'après, les calculs deviennent tout à fait différents.
Oui. Les autres, combien ça coûte, votre solution, Serge Grigorovitch?
Alors, nos solutions, elles sont en fonction des options entre 10 000 et 20 000 euros.
Et vous, Cyril Danet?
Donc nous, on met à disposition ces bornes pour les entreprises. Oui. Et puis, il y a un paiement à l'usage, c'est-à-dire 20 euros pour 8 heures de mesure.
Y a-t-il des choses qu'on ne peut pas faire avec un exosquelette?
Oui, beaucoup.
La
solution, en fait, est très pragmatique. Pour le moment, ce que nous, en tout cas, savons faire, c'est du soulèvement, de charge. Donc, on sait assister le port de typiquement 25 kilos, on sait le faire très bien. En revanche, par exemple, chez nous, on ne sait pas faire d'assistance sur des plans horizontaux, c'est-à-dire traction, poussée, on ne sait pas faire. Ce que tu sais faire, Serge ?
Voilà, en fait, on retrouve ce que disait Pierre. Machines, elles sont spécialisées aujourd'hui sur un geste. Parce que globalement, la combinaison d'Ironman, et ben on n'a pas réussi à faire.
Pas encore, ça va bientôt venir le multitâche. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous présenter vos innovations autour de ce sujet sensible qui est au cœur des débats en ce moment, qui est la pénibilité au travail. Et là, on le voit encore, même dans ce domaine, les Français innovent et se bougent. Et ça, on adore.
Il est 13h47. Europe 1.
Elle fabrique des tabliers et des gants en côte de maille pour se protéger des coupures au couteau. Ça fait 40 ans. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires de près de 12 millions d'euros. Manu Latex est l'entreprise qui va bien. Restez avec nous.
Europe 1.
Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, bonjour Philippe Jauneau.
Bonjour.
Je vous parle avec un gant en côte de maille. Je vous le montre pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr. C'est quoi un gant côte de maille? Vous pouvez nous le décrire?
Alors un gant côte de maille, c'est un gant qui est destiné au boucher ou au métier de bouche pour désosser la viande, par exemple, et pour ne pas se perforer la main. Et on a développé ce gant dans les années 85-90.
Vous, Philippe Jauneau, vous êtes le directeur général de Manu Latex.
Oui.
Et vous êtes spécialisé dans la côte de maille, oui, dans tous ces produits, l'état des tabliers, des gants qui nous permettent, qui nous protègent des coupures en cas de... quand on coupe un rôti, par exemple.
Oui. Oui, quand on coupe un rôti, quand on ouvre des huîtres, quand on veut... Alors, c'est surtout destiné aux professionnels, mais on a fait une moufle en côte de maille qui est maintenant destinée aux particuliers.
Quels sont les bienfaits de la côte de maille?
Les bienfaits de la côte de maille, c'est de protéger le travailleur contre des perforations qui peuvent être graves, parce qu'on fait des gants, mais on fait aussi des vêtements. Et les vêtements protègent des fois contre des accidents extrêmement graves, même mortels,
oui,
puisque certains bouchers peuvent mourir.
Là. C'est quoi? C'est un tablier?
Alors ça, c'est un tablier d'hygiène. Hein. C'est un tablier, c'est l'origine de la société. Au début, l'histoire de Manu Latex, c'est une reconversion. C'est M. Baudard qui a fondé la société en 1979.
Ça, c'est votre beau-père. Tout commence dans son garage, un garage de 50 mètres carrés.
Ouais.
Et à l'origine, il fabriquait ces tabliers de, pour les poissonniers, pour les ostréiculteurs.
Ouais. D'où le nom Manu Latex, manufacture de produits en latex. Donc, à l'origine, nous fabriquions que des tabliers en latex, on va dire, pour simplifier.
Et au fur et à mesure, la concurrence arrive, asiatique.
L'idée est venue de faire un produit complexe, compliqué à fabriquer. Contrairement au tablier d'hygiène qui est très simple à faire, il fallait trouver quelque chose avec une forte valeur ajoutée, difficile à faire. C'est un gros challenge. Au début, ce n'était pas évident parce que si on vous donne un gant en côte de maille, vous voyez, c'est constitué de 10, 11 000 anneaux avec un fil de 5 mm, de 0,5 mm et des anneaux de 4 mm de diamètre.
Et c'est un fil inox. Hein, les anneaux sont enchevêtrés les uns avec les autres.
Et chaque anneau est soudé.
C'est long à fabriquer?
Il faut, c'est long. Pour fabriquer un gant, il faut 1h30, 2h.
Ah oui, quand même.
Il y a une partie automatique et une partie manuelle. On a des petites mains qu'on forme et qui assemblent les gants.
Et justement, elle assemble les gants parce que c'est vous qui avez créé la première machine de fabrication de côte de maille.
Alors, on l'a créé, dans les années 90. On a mis 5 ans à développer les premières machines. C'était pas évident, parce qu'on n'y connaissait rien,
Mais ça, vous avez rejoint l'entreprise en 86. En 90, vous vous dites, on va créer cette machine, mais c'était compliqué à ce qu'on aboutisse à un résultat probant comme celui-ci.
Oui. Au départ, on a eu des idées, parce qu'on a visité des musées qui faisaient de la chaîne, des bijoux. Donc, on a pris quelques idées. On a fait nos premières machines. Les premières machines tournaient très mal. Il fallait y passer du temps, de 5h du matin jusqu'à 22h le soir, on y était. Et ça fonctionnait mal. Et on avait emprunté de l'argent pour faire ça. Donc, il fallait le rembourser. Donc, c'est les tabliers à l'époque qui payaient le développement de la côte de maille.
La patience de l'entrepreneur.
Et après 5 ans, on avait fini de payer les machines. On a pu se payer le luxe d'en arrêter une et de faire des recherches dessus pour améliorer le process.
Améliorer le process aussi pour que ce soit plus léger, que ce ne soit pas un bouclier de...
Non, c'est améliorer le process de fabrication. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre des techniciens sur ces machines-là parce qu'elles étaient trop complexes. Il n'y a que moi et mon beau-père qui étaient capables de les faire fonctionner. Donc, ce n'était pas viable. Donc, on a arrêté une machine et puis, en quelques temps, on a réussi à trouver une méthode de soudure. C'est surtout dans la soudure qu'on a amélioré, qui s'est fiabilisé. Et cette méthode-là, on l'utilise toujours. Et maintenant, on a 16 mécaniciens qui font tourner ces machines.
Ça se passe où?
Ça se passe à Chantecé-sur-Loire, à côté d'Angers.
Laurent?
Je n'ai pas de vénération médiévale particulière, mais il y a aussi une esthétique de votre produit. Je trouve intéressant que quand on fait un produit qui est en fait fonctionnel, l'idée c'est de protéger, etc. En réalité, vous en ayez fait quelque chose aussi qui donne presque, sans doute, des idées de mode à des Jean-Paul Gaultier, des gens comme ça. Ça
oui,
me paraît assez évident.
Il est tellement beau que, oui, on a travaillé d'ailleurs dans
avec
la mode,
Paco
on a travaillé
Rabanne,
avec Paco Rabanne
hein,
pendant une dizaine d'années.
J'ignorais ça, mais... Et par puis, contre, peut-être parlez-nous vite fait des gens qu'il y a derrière, parce que vous,
oui,
avez, vous êtes une entreprise socialement intéressante aussi.
C'est important parce qu'on passe beaucoup de temps à former le personnel. Voilà. On a un savoir-faire unique, on a développé le process, donc on forme les mécaniciens à travailler sur nos machines qu'on connaît bien. Les machines, on les connaît tellement bien, on les conçoit nous-mêmes, donc on est mieux placé pour les connaître et après pour les faire fonctionner. Donc on forme nos techniciens, après on forme du personnel pour assembler les gants, parce que c'est comme de la couture. On sort un tissu à plat et après il faut assembler les gants. Et là, il y a un gros savoir-faire, il y a une grosse formation.
C'est qui les personnes ?
Alors généralement, on prend des femmes parce qu'elles sont plus habiles et on a essayé avec des hommes, ça ne fonctionne pas. On a beau dire que nous sommes égaux,
on
oui, mais pas
des exosquelettes,
dans
peut-être.
Testeurs.
Oui,
et les femmes ont une capacité, peut-être plus de patience que les hommes. Donc on a beaucoup de jeunes femmes, bon après moins jeunes, parce que forcément on les garde. Quand on a formé du personnel, nous on aime
c'est pour les fidéliser
on aime les garder
et qu'ils
longtemps.
Restent longtemps. Depuis les années 90, là aujourd'hui il y a plus d'une centaine de références.
Oui.
Sur vos gants, oui. Côte de Maille. Oui. Et vous, vous avez pu lever la tête hein, dans les années en 97 et vous avez fini par vendre l'entreprise à votre plus gros client.
Oui,
à Bobet.
Au groupe Bobet, qui est un groupe sartois, c'est un groupe familial. Donc on a vendu au groupe Bobet. Monsieur Bobet m'a demandé, mais j'achète votre société, mais moi je suis incapable de
donc
de
vous
m'en occuper.
Donc vous restez,
oui,
hein,
en gros,
vous restez.
Je vous achète vous, vous restez 5
et
ans.
Et vous devez rester 5 ans ?
Oui.
Et ça fait 22 ans ?
Oui, ça fait 22 ans.
C'est un bel attachement.
J'en veux pas. Bon, on s'entend bien. Le groupe Bobet, c'est un groupe familial. On a beaucoup de liberté dans la direction. On se fait confiance. Je sais que le président, qui n'est plus Jacques Bobet, mais maintenant son fils Jérôme, je sais qu'il me fait confiance. Et voilà, on a les décisions sont prises très vite. C'est très agréable.
Et 41 ans après, 200 personnes. Combien ça coûte un gant en Côte de Maille ?
Alors un gant à Côte de Maille, ça coûte en prix public, on va dire un prix public TTC, une centaine d'euros. Et la moufle, entre 70 et 80 euros. C'est pour ça qu'on a fait une moufle d'ailleurs, c'est pour baisser le prix. Alors il ne faut pas confondre, j'en profite pour un détail.
Rapidement.
Il ne faut pas confondre les gants Côte de Maille avec les gants anti-coupure. Nous, c'est anti-coupure et anti-perforation.
Et anti-perforation. Ouais. Merci Philippe Jauneau d'être venu nous parler de Manulatex. Un bravo pour votre belle entreprise. C'est la fin de votre émission. Merci à vous Laurent Chouin.
Mon
d'avoir
plaisir.
Joué le rôle du coach. Vous êtes le DRH de Mazars. Merci Dora. À demain.
À demain.
Et
Elisabeth.
Céline, à demain.